Bonjour à tous, je suis très heureux d'apporter le message aujourd'hui dans cette série 3 en 1 où on regarde à découvrir ou redécouvrir qui est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On croit réellement qu'on peut découvrir qui est Dieu ou redécouvrir qui est Dieu, apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux, d'une nouvelle manière, chaque semaine pendant cet été, parce qu'on croit que Dieu veut se révéler à nous, bien plus qu'on ne veut le découvrir. Et alors qu'on regarde à ces messages chaque semaine, Dieu veut se révéler par la prédication de l'Évangile. Alors qu'on se tient ici, alors que je vais parler de la parole de Dieu, de la Bible, on croit que Dieu va se révéler à celui qui a le cœur ouvert, prêt à découvrir qui est Dieu. Et dans une société où les gens se disent de moins en moins religieux, mais de plus en plus à la recherche d'une spiritualité, sans réellement savoir où la trouver, les gens se disent peut-être c'est flou, c'est nébuleux, on ne peut pas réellement savoir qui est Dieu. Non, vraiment, nous on le sait et on le dit et on le proclame que Dieu veut se révéler à nous, parce que c'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous. Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas insaisissable, Dieu s'est révélé. Et la plus belle révélation de Dieu s'est faite quand il a envoyé son fils Jésus-Christ sur cette terre. Dieu lui-même est venu s'incarner en homme, dans notre humanité, vivre ici sur cette terre il y a plus de 2000 ans. Et alors qu'on est dans cette série 3 en 1, aujourd'hui on va regarder à qui est Dieu le Fils. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Jésus, le modèle parfait ». Jésus-Christ est venu révéler le Père, le Dieu des cieux. Mais Jésus est venu également nous donner le modèle de comment vivre notre vie sur terre. Jésus est le modèle parfait parce qu'il vient nous montrer comment on peut comprendre Dieu, mais également comment vivre notre humanité. Jésus est le modèle parfait. Et dans les quatre évangiles dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les quatre évangiles nous parlent de la vie de Jésus. Ce sont les évangiles qui nous montrent comment Jésus vivait quand il était ici sur terre. Ça nous relate ses paroles, ses actions, ses réactions, comment il vivait dans la vie de tous les jours, ses interactions avec les gens, avec les gens qui ne pensaient pas avoir besoin de Dieu comme les gens qui étaient à la recherche de Dieu. Les évangiles nous montrent comment Jésus vivait. Et non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans des situations qui n'étaient pas simples, pas faciles à gérer. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Alors, si tu te dis en ce moment, je me pose des questions, je ne sais pas réellement comment vivre ma vie ici, puis je fais face à plein de situations difficiles, je te le dis et je te donne un défi. Prends ta Bible et dans les évangiles, commence à lire. Si tu n'as jamais lu la Bible, va sur les applications, sur ton cellulaire, tu peux en avoir une gratuitement. Et puis, lis les évangiles. Parce que, alors que tu vas lire la vie de Jésus, c'est exactement le modèle que Dieu a designé pour nous. Que nous puissions vivre notre vie comme Jésus nous l'a montré. Et alors que Jésus, on le voit dans les évangiles, puis on va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8, on voit que Jésus est devant une situation vraiment, vraiment complexe. Et je vous donne le contexte, ok? Jésus est à Jérusalem au milieu de son ministère et alors qu'il est en train d'être au temple, il enseigne, il annonce la bonne nouvelle. Et alors que Jésus est reconnu par tout le peuple, il fait des miracles. À chaque fois que Jésus est quelque part, il se passe quelque chose d'incroyable. La foule le reconnaît comme quelqu'un de vraiment, vraiment extraordinaire. Mais alors qu'il y a tout cet attroupement autour de Jésus, alors qu'il est là dans le temple et qu'il enseigne la foule, les gens sont là et puis les pharisiens, qui représentent le pouvoir religieux de l'époque, eux, ne veulent pas que Jésus continue à annoncer cela. Parce que eux, Jésus remet en question leur manière de voir, leur manière d'enseigner qui est Dieu. Et alors qu'eux sont là, les pharisiens essayent d'arrêter Jésus, essayent de le faire taire, même vont aller jusqu'à comploter de le tuer. Et alors que ce contexte-là est mis, on va le lire ensemble, Jean 8, versets 1 à 11, on regarde un petit peu le piège qui a été tendu à Jésus. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. » Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, Ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était là, restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus se leva la tête, et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » C'est incroyable ce texte parce qu'il nous montre comment Jésus est le modèle parfait de grâce et de vérité. Alors que Jésus voit le piège être tendu vers lui, Jésus, bien sûr, était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Alors il sait, il connaît les cœurs, il sait les pensées de ceux qui sont en train de venir pour lui tendre un piège. Jésus voit le piège. Jésus dérangeait le système religieux en place, les castes que les gens avaient mis. Les gens se servaient de la Torah, de la loi de Dieu, pour manipuler le peuple, pour oppresser, pour accuser, pour exposer le péché des autres. Et là, Jésus voit ce piège être là. Et alors que ce dilemme est en fait sans issue, dans les deux réponses, alors que les pharisiens avaient étudié Jésus, ils essayaient vraiment de le prendre à défaut. Ne vous inquiétez pas, quand on confronte la vérité ne perd jamais. Et lorsque les pharisiens viennent pour essayer de confronter Jésus, Jésus sait déjà avant, même les situations difficiles, quelle est la sortie, non seulement pour lui, mais pour cette femme. Parce qu'il est piégé entre un dilemme, entre est-ce que je vais désobéir aux Romains, parce qu'en ce temps-là, Jérusalem était sous l'oppression romaine. Rome avait envahi et puis c'était eux l'autorité. Donc on ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un sans passer par le jugement romain. Alors, si Jésus avait pris cette décision en disant « Ok, elle a péché, elle a été prise en flagrant délit, selon la loi, on va la tuer », il se serait mis, il aurait désobéi aux Romains, il aurait été le rebelle en ce temps-là. Mais s'il avait dit « Non, même si elle a péché, je veux qu'elle soit relâchée », là, il aurait déshonoré la loi de Moïse. Il aurait enfreint les règles du Sanhédrin, enfreint les règles qui tout le peuple respectait ces règles-là, parce que c'était le pouvoir religieux. Et alors Jésus voit le piège. Il voit le piège parce que c'était une manipulation. Jésus savait très bien. Parce qu'ils se servent de la loi de Moïse, une loi qui était sainte, qui était juste, qui venait de Dieu. Mais ils se servent de cette vérité pour en faire une manipulation, pour essayer de piéger quelqu'un. C'est une manipulation, c'est une manigance que les Juifs... Alors que Jésus le voit. Le problème, c'est que dans ce piège-là, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que si cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, elle ne devait pas être seule. Mais elle se retrouve seule, traînée devant tout le peuple jusque dans la cour du temple, mise là, exposée comme du bétail. Voici bien en vue, voici son péché. Mais pourquoi l'homme n'était pas là? C'est là où plusieurs commentateurs bibliques disent que, sans doute, le piège avait été tendu par Jésus et cette femme n'était que l'appât. Elle avait été peut-être poussée à faire l'adultère. Peut-être que même l'adultère avait été commis avec un de ceux qui étaient dans la foule. Alors c'est un piège qui est mené contre Jésus en disant « Voici, qu'est-ce que toi tu vas dire ? Nous voulons t'avoir, mais elle est juste l'appât. Qu'est-ce que toi tu vas dire ? Où est l'homme ?» Alors il y a comme un jugement qui ne peut pas être fair à ce moment-là. Et même Jésus, quand il entend ces pharisiens-là faire référence à la loi de Moïse, Jésus savait exactement que dans le même passage de Deutéronome 19, il y a une loi qui contient, il y a un règlement qui contient également cette phrase qui dit « Si un témoin malveillant accuse quelqu'un d'un méfait, si on découvre que ce témoin a menti et qu'elle a fait une fausse déposition, on lui infligera la peine qu'il voulait faire subir à l'accusé. » Dans le terme malveillant, c'est de dire comme manipuler quelque chose pour son propre intérêt. Les pharisiens, ils n'avaient pas juste pris intègrement cette femme en flagrant délit. Non, ils l'avaient peut-être poussée à le faire et ils avaient pris ça en disant « Voici, on a trouvé une vérité, maintenant on va essayer de la manipuler pour faire tomber quelqu'un. » Ça, c'est un témoin malveillant. Jésus savait exactement que si elle doit tomber, vous devez tous tomber. Les pharisiens avaient le beau rôle d'exposer les fautes des autres, mais se dégager des leurs. Un peu comme aujourd'hui, certaines personnes sur les réseaux sociaux. On expose les péchés des autres, mais on se dégage des nôtres. J'ai vu cette photo qui m'a fait rire récemment. C'est un riche homme d'affaires qui a posté cette photo en expliquant que de voir la joie des enfants qui s'amusent, c'est la chose la plus précieuse dans ce monde. Et même une Lamborghini à 1 million de dollars, ça ne vaut rien devant cela. Alors il a autorisé les enfants à sauter sur la voiture de luxe et profiter de l'instant présent en riant de bon cœur. Mais la meilleure partie de l'histoire, c'est que ce ne sont pas ses enfants et que ce n'est pas non plus sa Lamborghini. C'est drôle, mais en même temps, c'est comme on expose quelque chose, mais ça ne nous regarde pas. On est loin de la situation. On fait comme si on est intéressé alors qu'en fait, on n'a rien à voir dans cette histoire. C'est facile d'exposer la vie des autres et le péché des autres quand ça ne nous concerne pas. Mais Jésus dit en fait, moi je connais les péchés de chaque personne ici. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus, alors qu'il voit le piège se resserrer contre lui, il voit plus loin que le piège. Il voit cette femme. Alors qu'elle est juste un appât pour ceux qui veulent le piéger, Jésus voit l'âme de cette personne. Imaginez cette femme. Oui, prise en flagrant délit d'adultère, mais imaginez la tristesse, la souffrance de cette femme, traînée toute la ville, devant tout le monde. Puis amenée, puis le texte dit bien en vue devant tout le monde, dans la cour du temple. Elle est brisée, humiliée. Jésus voit cette femme. Elle devait être complètement à genoux, les mains, la tête dans les genoux, juste en disant « je veux juste rien voir et puis j'attends juste ma sentence » parce qu'elle savait ce qui se passait. C'est le pire moment de sa vie, exposée devant tout le monde. Elle a été piégée sans doute, peut-être. Mais Jésus voit son âme, il connaît ses erreurs. Alors qu'elle, elle voudrait être loin, elle dirait c'est le pire moment de ma vie. C'est vraiment pas la manière dont je voulais me tenir dans le temple, devant Jésus, devant toute la foule. Mais Jésus, lui, est proche. Alors qu'elle, elle voudrait être loin, Jésus est proche. Et il va se passer quelque chose d'incroyable. Voici les 4 actions que Jésus va poser, qui nous est dites dans ce texte, pour sauver cette femme. On va le regarder ensemble. Voici pourquoi il est le modèle suprême, le modèle parfait de la grâce et de la vérité. La première chose, en voyant cette femme, c'est qu'il va la protéger. Okay? Cette femme est là, exposée devant tout le monde. Son péché est mis, elle est humiliée. Mais Jésus, la première chose qu'il va le faire, c'est la protéger. Protéger, il le dit. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est en train de regarder toute la foule en disant, vous tous là, je vais la protéger de vous tous parce que si vous n'avez aucun péché, allez-y, jetez-lui la première pierre. La deuxième chose, c'est qu'il va s'adresser à elle. Alors que tout le monde est parti, tout le monde accusé par leur conscience va jeter la pierre, va juste partir des lieux. Jésus va la rassurer. Il va dire, ceux qui t'accusent, ceux qui te condamnent? Mais il n'y a plus personne. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Il va la rassurer. Ensuite, il va l'encourager. Va. Comme, reprends ta vie, repars, il y a l'espoir maintenant. Va, tu devais mourir ici. Non, maintenant tu vas, tu pars, reprends ta route. Et dernière chose qu'il va faire dans les 4 actions, c'est qu'il va la confronter. Mais désormais, ne pêche plus. C'est fort parce qu'a priori, on pourrait regarder ce texte de loin en disant, oh mais Jésus omet qu'elle a été prise en flagrant délit d'un péché. Non, non, Jésus le savait très bien. Mais voici ce qu'il a décidé et les actions chronologiques qu'il a décidé de faire. De protéger, de rassurer, d'encourager et de confronter même le pécheur. Parce qu'il voit la souffrance que le péché inflige aux gens. Le péché, son péché à elle, oui, mais le péché des autres qui veulent juste manipuler cette situation pour accuser, pour condamner. Soif de sang. C'est incroyable, parce que Jésus est en train de nous montrer que, avant de confronter quelqu'un sur son péché, sur ses fautes, sur ses erreurs, montre-lui d'abord que tu l'aimes et que tu veux son bien. Pas l'inverse. Puis trop souvent, si je m'adresse à ceux qui sont chrétiens dans l'Église aujourd'hui, puis que trop souvent, on dit, ben, si tu te repens, si tu enlèves ta faute, là, je vais peut-être te rassurer, t'encourager, te protéger. Mais il faut que tu passes d'abord par... Non, Jésus est en train de te dire, cette âme souffre, cette âme est prisonnière en ce moment. Je vais la protéger, la rassurer, l'encourager, mais la confronter. Grâce et vérité. Jésus n'est pas 50% grâce et 50% vérité. Jésus est 100% grâce et 100% vérité. La grâce, ce n'est pas un concept théologique. C'est une personne et son nom est Jésus-Christ. C'est pour ça que cette femme-là est amenée à la mort par la religion, mais elle rencontre Jésus et elle repart avec la vie, avec l'espoir. J'imagine juste son sourire en quittant cette scène en disant « Je devais mourir là, et là je repars avec la vie. Jésus m'a sauvé, Jésus ne m'a pas condamné, Jésus m'a dit « Va, mais ne pêche plus. » Sa vie a dû changer à partir de ce moment-là. La grâce nous sauve et la vérité nous libère. La grâce, c'est que ce que tu devrais subir pour ton péché, je vais le prendre. C'est ce que Jésus va faire à la croix ultimement. Il va prendre les péchés de tout le monde, il va les prendre sur lui, il va les subir et il va nous donner le pardon. C'est ça la grâce. C'est de recevoir quelque chose que nous ne méritions pas. Mais la vérité nous libère. Jésus n'a pas juste dit, je prends tes péchés, puis va-t'en, reprends ta vie. Non, il a dit, va, mais ne pêche plus. Parce qu'il savait que le péché amène la souffrance, que le péché, le salaire du péché, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors si en ce moment, tu te dis, je vis une vie qui n'est pas vraiment conforme à la volonté de Dieu, et puis je sais que je fais des choses qui ne sont pas... La bonne nouvelle, c'est que Jésus te donne la grâce, mais il veut que tu saches la vérité, c'est que le péché t'amène toujours à la souffrance. Et ultimement à la mort. C'est pour ça que Jésus est là, il donne la grâce, mais il lui dit la vérité. Ne pêche plus. Es-tu sous le poids du péché en ce moment? Et même si tu dis, ouais, je vis ma vie comme je veux, ni Dieu ni maître, je suis rien comme, je ne suis pas de religion, je ne suis pas de dogme, je veux suivre seulement mon cœur et mes instincts et mes désirs. À un moment donné, ça va t'amener à souffrir. Peu importe. Même si tu crois qu'en ce moment, ton péché, ce que tu fais, c'est vraiment le fun, tu vas voir un jour, tu vas souffrir. Que ce soit immédiatement ou plus tard. Le péché amène toujours la souffrance et c'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde. Annoncer la grâce, mais annoncer la vérité. C'est pour ça que ce modèle qui est Jésus, c'est un modèle parfait de grâce et de vérité. Mais ce n'est pas juste un modèle conceptuel. La deuxième vérité, c'est que nous devons vivre selon ce modèle. Jésus n'est pas juste venu nous montrer avec des principes conceptuels, voici comment vous devez vivre. Non, il a dit, maintenant vous devez vous-même vivre sous ce modèle. Nous devons vivre à l'image de Jésus. Vous allez me dire, non mais c'est impossible. Par nos propres forces, on ne serait jamais capable de faire ça. Non, et là la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que lorsque nous venons devant Jésus en disant, je suis fautif, je n'arrive pas à vivre selon ton standard, Seigneur, j'arrive pas. La loi, le principe, le standard est tellement élevé. Jésus dit, je le sais, c'est pour ça que je suis venu prendre ta place, mourir et être condamné pour ton péché, et je te donne le pardon, je te donne tout ce que tu ne mérites pas, je te le donne, tout ce que je suis te revient. Tu peux maintenant être appelé enfant de Dieu, si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, tu lui demandes pardon pour tes péchés, et tu suis la parole de Dieu, tu vas en marchant dans la vérité. Le Saint-Esprit vient vivre en nous, la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit vient en nous, il nous remplit et il nous donne d'être capable de vivre selon le modèle de Jésus. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de dire non aux tentations. Quand le péché est là, il nous donne la capacité de le fuir. Il nous donne la capacité de vivre et d'être renouvelé dans l'amour, la compassion, la grâce, le pardon, tout ce que ces pharisiens n'avaient pas. Jésus nous a montré que le modèle, c'était le sien qu'il fallait avoir. Jésus est le modèle parfait. Puis, réellement, alors que j'ai découvert Jésus le jour de mes 16 ans, j'ai donné ma vie à Dieu, mon cœur a été complètement changé de la colère que j'avais, du mensonge que j'entendais, que je vivais vraiment, j'étais vide, j'étais mal dans ma vie. Le jour de ma conversion, mon cœur a complètement été changé. Et réellement, je me dis, si je ne marche pas, conformément au modèle qui est Jésus, si je ne demande pas à l'Esprit de Dieu de me renouveler et de me montrer comment je dois vivre à l'image de Jésus, je deviendrai trop rapidement l'accusateur. Trop rapidement, je serai celui qui prend des pierres et qui juge les autres, qui critique les autres. C'est pour ça que nous devons vivre selon ce modèle, parce que si nous ne le faisons pas, nous devenons un des accusateurs. Un légaliste, si elle a brisé la loi, elle doit mourir, elle doit payer. Vous savez, la grâce que j'ai reçue, je dois la donner. En tant qu'Église, la grâce que nous avons reçue, nous devons la donner. Nous devons faire comme Jésus, devant les manipulations, devant les pièges, devant une âme qui souffre, même si elle est prise en flagrant délit de péché, c'est de la protéger, de la rassurer, de l'encourager et la confronter. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce phénomène-là quand on arrive devant un ascenseur. C'est un phénomène naturel qui s'appelle le demi-tour. Vous arrivez devant un ascenseur et puis là, vous espérez qu'il y aura de la place pour vous. Puis il y a beaucoup de monde partout dans le bâtiment. Alors vous dites, j'espère juste vous prier. Si l'ascenseur arrive, si au moins il peut y avoir une place pour moi. Et là, l'ascenseur arrive, ding, la porte s'ouvre. Puis vous voyez, l'ascenseur est complètement, il y a trop de monde. Et puis là, vous voyez dans le regard des gens qui disent, OK, là en ce moment, il n'y a pas de place pour toi, c'est déjà difficile, l'air est un petit peu suffocant, donc ce qui fait que tu vas attendre ton tour. Il n'y a aucune grâce dans leur regard. Et puis toi, tu es là de l'autre côté, puis tu dis juste, s'il vous plaît, quelqu'un pourrait juste me faire une place. Et là, il y a comme quelqu'un qui se dit juste, bon allez, on va lui faire une place. Il se tasse, et là, vous dites, oh, quelle grâce, merci. Alors là, vous rentrez dans l'ascenseur, et le phénomène arrive à ce moment-là. C'est qu'une fois que les portes se ferment, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le demi-tour. Vous devenez une partie des gens qui sont dans l'ascenseur. Et arrivé au prochain étage, qu'est-ce que vous faites? Ding, les portes s'ouvrent. Il n'y a pas de place pour toi. Ne jamais faire que nous, en tant qu'Église, que les chrétiens, que nous puissions dire « Hé, parce que j'ai reçu la grâce et maintenant que je suis de l'autre côté, je fais partie de la foule, je fais partie des gens qui ont une place, qui sont confortables. Jamais maintenant je vais donner de la grâce, jamais je vais faire de la place. » Non, Jésus est en train de nous montrer qu'il va falloir que nous faisions de la place, que notre cœur fasse de la place à la grâce, que notre cœur puisse être rempli juste de compassion devant les âmes qui sont brisées sous l'emprise du péché. Et si en ce moment c'est toi qui regardes et puis que tu dis « c'est exactement mon cas, j'ai l'impression que je suis cette personne accusée de partout, avec il y a des gens qui sont en train de me lancer des roches, peut-être c'est par des critiques, des mots, des textos, des Twitter, peu importe, mais en ce moment tu es sous le coup des accusations. » Puis tu dis « mais qui pourra me sauver, qui pourra me donner l'espoir ?» Jésus est là avec toi. Il faut que tu comprennes que la posture de Jésus est complètement différente de la posture des pharisiens. Alors que les pharisiens sont avec une, ils voient les autres de haut, ils ont la pierre dans la main. Rapide pour dire la vérité, rapide pour confronter, rapide pour exposer. Jésus dit, si tu dois lancer la pierre, si elle tombe, vous tombez tous. Mais moi je suis venu pour qu'aucun ne se perde. Jésus n'a pas condamné cette femme, mais non plus il n'a pas condamné les accusateurs. C'est ça qui est fort. C'est que Jésus est venu pour qu'aucun ne se perde, pour que tous reçoivent la grâce de Jésus. Cette femme, comme la foule, comme toute personne, c'est pour ça que Jésus n'a même pas condamné cela. Il a dit dans la Bible, « Je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver le monde. » Jésus à la croix allait mourir pour les péchés de cette femme et de toute personne qui était dans la foule, la roche à la main, vous et moi également. Parce qu'il est venu pour les péchés de l'humanité au complet. La posture de Jésus est complètement différente de celle des accusateurs. Ils voient la femme de haut, ils sont là prêts à dire « on va faire le jugement », alors que Jésus, lui, est assis. C'est intéressant de voir que le texte nous dit que Jésus est assis et puis il écrit dans le sol. Maintenant, on sait pas ce qu'il a écrit dans le sol. On n'a aucune idée. Il a écrit deux fois sur le sol. Alors, chaque commentateur biblique, chaque prédicateur va y aller avec une spéculation. Peut-être qu'il a écrit ceci, peut-être qu'il a écrit cela. Dans le temps, les Romains écrivaient leur sentence par terre avant de la dire. Certains disent que peut-être que Jésus a commencé à écrire les noms de ceux qui avaient peut-être commis l'adultère également. Et qu'eux étaient là après à juger, mais qui disent « Hé, je vous ai vu là ». Certains disent qu'il était en train de décrire toutes les fautes, tous les noms des personnes. On ne sait pas. Maintenant, peu importe ce qu'il a exposé par terre, le temps, la poussière s'est dissipée. Si on ne le sait pas, c'est qu'on ne doit pas le savoir. Peut-être que Jésus a exposé les péchés des autres alors qu'eux étaient en train de l'exposer. Mais le but de Jésus n'est pas de condamner, n'est pas de dire « Hé, toi et toi et toi ». Non, non, non. Le but de Jésus, c'est de dire que « Moi, je veux la sauver de son péché et de votre péché. Et je veux vous sauver de votre propre péché. Même si vous ne savez pas qu'en ce moment, vous êtes sous l'emprise du péché et du mal. » Jésus est resté seul avec elle jusqu'à la fin. C'est fort parce que Jésus est assis, il écrit, et toute la scène, il est assis à part une fois où il doit se lever, mais il se rassoit. Et la Bible nous dit que Jésus est resté seul avec cette femme, alors que tout le monde part, il devait y avoir du monde, les gens ont dû parler, quitter, tout ça, mais Jésus reste seul. Et pourquoi il est assis? J'ai l'impression qu'il est à la même hauteur que cette femme. Cette femme, j'imagine juste, ici, amenée devant tout le peuple par son péché, elle doit se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ? Je ne voulais jamais que ça en arrive là. Je n'avais pas prévu ça, puis je voulais juste vivre une bonne vie, puis j'essayais juste de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'attends ma sentence. » Imaginez la tristesse, la peine, la souffrance. Elle devait être là, j'imagine, juste pas bouger en attendant que la première pierre tombe. Puis elle est là. Et Jésus reste seul avec. Et puis elle doit entendre les gens qui partent. Et puis le texte ne le dit pas, mais j'imagine qu'elle ne doit pas bouger, elle doit juste attendre. Attendre parce qu'elle dit, ça peut tomber d'un instant à l'autre. Mais Jésus est là, il la regarde et il dit, Mais où sont tes accusateurs? Moi, je ne te condamne pas non plus. Maintenant, va, reprends ta vie, mais ne pêche plus. Quelle parole incroyable! Dans une simple phrase, Jésus va donner des mots tellement puissants qui sont pour vous et pour moi, qui ont un écho incroyable. Dieu, en ce moment, quand il te voit, il ne te condamne pas. Peu importe la vie que tu as en ce moment, peu importe si tu es loin de lui ou proche de lui, Dieu ne te condamne pas. Il n'est pas venu ici pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est que peu importe qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu as mal fait, ce que tu as manqué, ce que tu as fait délibérément, Jésus te dit, moi je ne te condamne pas. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Dieu sera juge et il y aura un jugement à la fin de tout. Mais aujourd'hui, alors que nous avons encore la vie, il est encore temps que tu reviennes à lui. Il est plein de grâce, il est plein de vérité. Il veut dire, je veux confronter ton péché, mais pour te donner la liberté. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité est comprise dans la parole de Dieu. La vérité est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors aujourd'hui, comme cette femme, rappelle-toi que par tes propres forces, tu ne pourras jamais, jamais atteindre le bonheur complet, la paix qui vient seulement de Dieu. Rappelle-toi que Jésus est le seul espoir pour toi. Là où les gens lancent le mépris, là où peut-être c'est toi-même dans tes pensées, tu te sens accusé, peut-être c'est toi-même qui t'accuse. C'est toi-même qui vis sous le poids d'une culpabilité. C'est peut-être même toi en ce moment qui vis l'adultère. Et tu entends ce texte, puis tu dis, wow, ça fait écho dans mon âme. Jésus est exactement le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La même situation qui est arrivée en ce moment. Et s'il y a une parole de Dieu pour toi en ce moment, c'est qu'il va te dire, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Viens à moi, reviens à Dieu. Fais-moi confiance, ouvre-moi ton cœur. Dis-moi tout ce qui te fait mal, dis-moi tout ce qui te pèse. Montre-moi que tu as, que par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Et je vais combler ton cœur. Je vais te donner un cœur de chair contre un cœur de pierre. Alors que tu étais fermé à toutes les choses spirituelles, à toute la joie qui vient de Dieu, à toute la paix, à toute l'éternité, moi, je peux te donner tout ça. Je suis le seul qui peut sauver ton âme. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, alors que j'étudiais ce texte cette semaine, je me rappelais que combien moi j'ai autant besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui que quand Dieu m'a sorti de là où j'étais, le jour de ma conversion. On n'est pas là à regarder personne de haut en disant « Hey, l'Église que nous représentons, c'est le pouvoir religieux. » Non, non, non. L'Église est une représentation de Jésus-Christ. Et si en ce moment tu te sens accusé par la religion ou la religion t'a blessé, peut-être quelqu'un, dans le nom de Dieu, comme ces hommes-là, ont manipulé la vérité pour t'oppresser. Jésus veut te dire, moi je ne suis pas ça. Moi je suis venu pour sauver, pour libérer celui qui est captif. Peut-être tu es captif du péché, peut-être tu es captif d'une religion, peut-être tu es mis dans une boîte et puis là tu es accusé. Jésus dit, moi je ne te condamne pas. Moi je veux te libérer. Moi à la croix, je vais prendre toutes tes fautes, tous tes fardeaux, toute ta culpabilité, la condamnation. Je vais les prendre, je vais mourir pour que tu puisses recevoir ma vie. Alors fais juste accepter qui je suis pour toi. Que par tes propres forces, tu ne peux pas devenir meilleur. Tu es juste vide, mais moi je peux te remplir. Laisse ma vie te remplir. Donne-moi ta vie, je t'ai donné la mienne. Et ensemble, nous serons ensemble pour l'éternité. Même après cette vie ici. Il faut se rappeler de cela, que nous avons tous besoin, tous les jours, de la grâce de Dieu. J'aime beaucoup cette citation de Tim Keller qui disait « L'évangile est résumé comme cela. Nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous n'oserions jamais le croire, mais en même temps, nous sommes bien plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'oserions jamais l'espérer. » Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous esclaves du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour rendre chaque être humain libre, sauvé, pardonné, réconcilié avec Dieu. Recevant la paix qui surpasse toute intelligence, peu importe les circonstances de ta vie. Jésus ne te promet pas une vie parfaite, il te promet une vie abondante. Il te dit, si tu crois en moi, moi je viens te sauver, je viens te restaurer par mon Saint-Esprit, je viens te remplir d'une nouvelle vie. Et aujourd'hui, tu peux dire non au péché, tu peux dire non à tout ce qui est en train de t'accuser. Je veux parler à quelqu'un en ce moment, peut-être tu te dis, en ce moment, la condamnation vient de l'intérieur. Et puis je demande pardon à Dieu pour mes péchés, mais j'ai l'impression que mon cœur, moi je ne me pardonne pas moi-même. Là, il y a un verset dans la Bible qui dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alors, si Dieu a dit sur toi que tu étais non coupable parce que Jésus-Christ a pris tout à la croix, ne dis pas toi que le jugement de Dieu, je vais l'outrepasser, puis non, je suis quand même coupable. Si Dieu a dit, moi je ne te condamne pas, arrête de te condamner. Viens avec gratitude, avec reconnaissance en disant, Seigneur, je ne me place pas sous l'autorité de mon cœur ou de la culture ou de ce qu'on dit. Non, je me place sous l'autorité de la parole de Dieu, sous l'amour de Dieu. Si lui m'a déclaré non coupable, alors je suis non coupable. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, je veux vraiment qu'on puisse comprendre l'amour de Dieu révélé par Jésus-Christ. Il est le modèle parfait de grâce et de vérité. Il est le modèle sous lequel nous devons tous vivre chaque jour de nos vies. Et il est celui qui veut remplir son Église de grâce. Je me souviens alors que un de mes amis racontait son témoignage. C'était incroyable parce qu'il venait d'un endroit tellement de violence, tellement de mal, tellement de souffrance. Et lorsqu'il est arrivé la première fois devant des gens chrétiens qui allaient même à l'église Nouvelle Vie, il est arrivé là et puis il a dit, c'est incroyable parce que l'amour qu'ils m'ont démontré, ils m'ont accueilli comme s'ils m'attendaient. Il y a une grâce qui a été démontrée par ces gens-là et l'amour de Jésus a été démontré par des gens qui vivaient pour Jésus. Et cet homme-là, alors qu'il a été complètement paralysé devant cet amour, il a commencé à être transformé par l'amour de Dieu. Il a dit, si eux ont trouvé quelque chose, je veux cette chose. Si eux ont trouvé la joie, la paix, le bonheur, la liberté sur le péché, je veux la même chose. Je veux dire aujourd'hui que Jésus est là devant tous tes accusateurs, devant ton cœur même qui te condamne. Puis il dit, moi là, je suis plus grand que ça. Moi, j'ai donné ma vie à la croix. L'œuvre de Christ, c'est qu'à la croix, il est venu pour dire, tous vos péchés sont pris sur moi, toute l'humanité. Péché passé, présent, futur. Aujourd'hui, tes péchés ont été portés à la croix déjà. Et le prix a tellement été grand pour Christ qu'il a donné sa vie. Son sang a coulé. Il est mort pour que tu puisses recevoir la vie abondante. Une nouvelle vie. Jésus, trois jours après être mort, il est ressuscité. Il est auprès du Père et maintenant il intercède pour nous. Il combat pour nous. Il a déjà eu la victoire pour nous. Il marche devant nous. Alors on a juste à obéir à sa parole, juste à lui faire confiance par la foi, le reconnaître comme notre Sauveur, notre Seigneur et marcher dans la victoire de Christ. Aujourd'hui, reçois la grâce de Dieu. Que ce soit la première fois ou que tu en aies besoin aujourd'hui alors que ça fait longtemps que tu connais Dieu. Nous avons tous besoin de revenir aujourd'hui à dire, Seigneur, tu es le modèle parfait. Jésus, tu es celui qui me définit. Je ne veux plus être défini par moi, par mes péchés, par mes accusations, par ma méchanceté. Non, je veux être défini par toi. Sois le modèle que je suis chaque jour. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Alors qu'on parle de grâce, alors qu'on parle d'être brisé peut-être par des accusations, brisé peut-être par la religion. Jésus est là et puis il veut dire, moi je suis l'espoir qui veut te protéger, te rassurer, t'encourager. Et te confronter la grâce et la vérité. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Je te prie que tu puisses te révéler maintenant par ton Saint-Esprit qui agit puissamment. Alors qu'on prêche le nom de Jésus, il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer dans chaque esprit des personnes qui nous écoutent. Parce que lorsque l'on prêche ton nom, on prêche l'espoir, on prêche l'amour, on prêche tout ce que notre âme a besoin. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses venir remplir le vide de chacun de nos cœurs. Jésus, je te prie que tu puisses maintenant te révéler comme étant le Fils de Dieu qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être appelés fils de Dieu. Seigneur, ce n'est plus nous qui nous définissons, c'est toi qui nous définis. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Seigneur, viens proclamer, Seigneur Jésus, viens déclarer, viens révéler, Seigneur Jésus, à chacun, Seigneur, qu'ils peuvent être pardonnés, rassurés par Dieu, protégés. Encouragez. Seigneur, je te prie maintenant que tu puisses venir sauver et restaurer nos vies en fonction de ton image, Jésus, parce que nous te donnons nos vies. Nous nous déclarons seuls et faibles. Nous ne pourrions pas par notre propre force arriver à ton standard. Mais toi, si tu viens en nous, nous pouvons faire, Seigneur, tout ce que toi, tu nous as demandé de faire. Alors nous voulons nous mettre devant toi aujourd'hui et nous te déclarons maître, roi, sauveur et seigneur de nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Le groupe de louanges va amener, puis commençons à célébrer, adorer Dieu pour ce qu'il fait. Sa grâce est incomparable.